Bonjour, nous sommes partis en vacances, mais pour vous accompagner, nous vous avons concocté des rediffusions. Bonne émission.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse la planète. Il remet tout en question et chamboule l'ordre établi. C'est par ces mots que l'écrivain tchadien Mustapha Daleb décrit cette crise que nous traversons. Et c'est vrai que le choc est brutal. En à peine quelques semaines, notre économie globalisée s'est figée comme un arrêt sur image et la photo n'est pas belle. Notre seul bouclier est la solidarité, ajoute le Congolais Alain Mabankou. Une solidarité qui n'a jamais eu la primauté face aux diktats de la croissance, l'essence de nos sociétés qui aujourd'hui sont hébétées. Cette crise va-t-elle nous permettre de redéfinir nos priorités? Va-t-elle aboutir à un sursaut de maturité pour garantir à l'humanité un avenir dans la dignité? Rien n'est moins sûr, mais nous allons tout de même y réfléchir avec nos invités.
Nous sommes en guerre. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là.
Je déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national et l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays.
The Prime Minister has announced the most drastic limits to our lives that the UK has ever seen in living memory.
Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement, nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences.
Rinvio di elezioni, tregue armate in Parlamento e poi ancora controversi stop alle misure di contenimento.
Nous avons enregistré le premier cas à Bobo et 7 nouveaux cas à Ouagadougou. Et les contacts à suivre étant donc au nombre de 148.
La relocalisation de certaines productions stratégiques doit être engagée. Et elle sera engagée.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Bonjour Laurent Hayet.
Bonjour.
Vous êtes expert en risque. Bonjour Laurent Testot. Vous êtes journaliste.
Oui, bonjour Anne-Cécile.
Alors nous sommes ensemble virtuellement, hein, c'est l'une des conséquences de cette crise. Nous sommes par téléphone, mais vous avez tous les deux coordonné le livre Collapsus, publié chez Albin Michel, dans lequel une quarantaine de spécialistes de nombreuses disciplines réfléchissent à la probabilité des effondrements en cours ou à venir. Alors quelles étaient vos intentions à la base de ce livre, dont l'idée a germé, bien entendu, avant la crise du coronavirus, Laurent Testot?
Alors l'idée est venue de Laurent Hayet de faire intervenir un certain nombre d'experts afin de recueillir des avis autorisés sur le futur, parce qu'il sentait qu'une bataille de récits sur le futur était engagée, mais de ça il va parler. J'ai rejoint ce projet parce que pour ma part je ressentais l'urgence d'arriver à faire un diagnostic de l'état des lieux aujourd'hui, un diagnostic transdisciplinaire en associant autant de chercheurs de disciplines différentes que possible pour avoir des avis convergents. C'était venu d'une réflexion qui a commencé à l'été 2017 chez moi, quand j'ai lu deux rapports distincts d'ailleurs sur l'Afrique, qui sont parus sensiblement au même moment, en juin 2017. L'un d'entre eux annonçait qu'il y aurait 4,5 milliards d'Africains en Afrique en 2100. Et un autre disait que sur une trajectoire de réchauffement attendue, c'est-à-dire business as usual, à 3,6 degrés supplémentaires par rapport aux températures de référence, l'Afrique serait inhabitable près de la moitié de l'année parce que dépassant en chaleur les conditions physiologiques de l'être humain. On sent bien qu'avoir des scénarios qui soient monodisciplinaires mène à une impossibilité physique. Il fallait donc des scénarios probables qui tiennent compte des récits des autres disciplines pour essayer d'orienter le futur vers une trajectoire désirable. Étant entendu que ce qui est dessiné dans les deux scénarios que j'ai annoncés avant, c'est absolument inadmissible d'un point de vue moral.
Et vous, Laurent Hayet, comment avez-vous eu l'idée de cet ouvrage?
Eh bien, il y avait deux. C'est la confrontation de deux idées. La première, c'était une grande fatigue des récits du futur. Alors, j'ai été longtemps un fan de science-fiction, mais l'idée que l'histoire était déjà écrite et que le futur serait comme ci ou comme ça, soit une croissance infinie dans un monde fini, soit un monde déterminé, me semblait pas très logique et je voulais qu'on regarde le futur, mais depuis le présent et pas depuis ce futur supposé. Et surtout, je voulais passer le message de la situation à l'homme de la rue, à quelqu'un qui simplement n'avait pas le temps de lire tout un tas de bibliothèques et qui aurait voulu comprendre la situation. Et donc, l'intention était de rassembler, de résumer les différents points de vue dans un seul ouvrage.
Alors, je dois dire que l'exercice est plutôt bien réussi, puisqu'en effet, chaque expert a joué le jeu de quelques pages uniquement, et on a une belle synthèse. Alors, parmi les contributeurs à votre ouvrage, il y a Gaël Giraud, qui est en ligne avec nous. Gaël Giraud, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS et ancien chef économiste de l'Agence française de développement. Votre chapitre a pour titre « Les économistes sont-ils armés pour anticiper les risques liés au dérèglement climatique ?» Alors pour l'instant, il semble qu'ils soient dépassés par les risques liés à une crise sanitaire.
Oui, ils sont complètement dépassés. Alors cette crise sanitaire avait été largement anticipée par l'OMS, qui avait prévenu que les marchés d'animaux sauvages à Wuhan et à Pékin étaient extrêmement dangereux, qu'il y aurait d'autres pandémies de coronavirus. Taïwan et la Corée du Sud avaient pris ça très au sérieux, se sont préparés, prémunis, ont très bien géré l'épidémie, en faisant du dépistage systématique et en mettant en quatorzaine toutes les personnes qui étaient positives. Nous ne l'avons pas fait. L'Occident a répondu de manière médiévale, c'est-à-dire comme on faisait au Moyen-Âge avec les grandes pestes. On a mis tout le monde en confinement, ce qui est la moins mauvaise solution une fois qu'on n'a pas fait le dépistage. Mais ce qu'il fallait faire, c'était du dépistage systématique dès le début. Bon, je ne dis pas ça pour donner des leçons à qui que ce soit, mais simplement parce que d'autres pays l'ont fait. Je constate que Taïwan et la Corée du Sud sont au XXIe siècle. L'Occident est au Moyen-Âge sanitaire aujourd'hui.
Alors, par de nombreux aspects, cette crise met à nu la fragilité de notre économie. On a l'impression qu'on est un peu malade de notre mondialisation.
Oui, complètement. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en train de se rendre compte que l'optimisation du profit à l'échelle internationale va conduire à construire des chaînes de valeur extrêmement vulnérables, dans lesquelles la transmission des biens à flux tendu, sans redondance, pour optimiser, enfin minimiser les coûts, fait que si aujourd'hui vous avez une entreprise n'importe où, dont 30% des salariés ne peuvent plus travailler, l'entreprise est obligée de s'arrêter. C'est pas 30% de production en moins, c'est une entreprise qui s'arrête complètement. Si l'entreprise s'arrête et qu'elle est insérée dans une chaîne de valeur internationale et qu'elle n'a pas de substitut, comme c'est le plus souvent le cas, la chaîne complète est à l'arrêt. Donc, va se poser dans les jours ou les semaines qui viennent les questions de maintien des chaînes d'approvisionnement au niveau mondial. Le maire de New York a prévenu ses concitoyens qu'il anticipait des rationnements alimentaires pour la ville de New York. Donc, ça va être une grande question. Et là, on est en train de découvrir que la globalisation marchande qu'on a construite depuis 30 ans nous rend extrêmement vulnérables à des pandémies qui sont par ailleurs prévisibles. Il y en aura d'autres. Le dérèglement climatique va malheureusement multiplier les pandémies tropicales transmises notamment par les insectes. Et la destruction de la forêt, la déforestation, nous met en contact d'animaux de la même manière que les marchés d'animaux sauvages à Wuhan ou à Pékin, ou donc des animaux qui sont porteurs de virus. Par ailleurs, la fonte du pergélisol en Sibérie va libérer également des virus qui sont gelés depuis des décennies, la trace, la grippe espagnole de 1918, qui vont revenir. Donc, j'espère que cette crise terrible va être l'occasion pour nous de comprendre qu'il faut reconstruire un monde beaucoup plus résilient à ce type de problème.
Alors, cette crise, c'est aussi celle des inégalités entre citoyens, des inégalités entre pays face aux conséquences sanitaires et économiques qui sont quand même extrêmement brutales. L'Afrique subsaharienne, que vous connaissez bien, se prépare à affronter la crise avec les moyens dont elle dispose.
Oui et non, malheureusement, l'Afrique subsaharienne, la force de l'Afrique subsaharienne, c'est la jeunesse de sa population. Il y a pas mal de pays dont la moyenne d'âge, c'est 20 ans, donc ces populations-là vont affronter beaucoup mieux le virus que nous, hein, notamment que le nord de l'Italie, avec une population vieillissante. Donc leur force, c'est leur jeunesse. Maintenant, la plupart, beaucoup des pays d'Afrique subsaharienne, comme vous le savez, n'ont tout simplement pas de système sanitaire, ou un système tellement déliquescent qu'il est incapable de faire face. Donc, voilà, peut-être, j'espère, ce sera l'occasion aussi pour les uns et les autres, la communauté internationale notamment, de comprendre qu'il faut absolument que la totalité de la planète ait un système sanitaire puissant, puisque aujourd'hui, je crois, ce que chacun réalise, c'est que la santé d'une famille chinoise à Wuhan concerne la planète entière. De la même manière, la santé d'un paysan dans la forêt guinéenne en 2014, au moment de l'épidémie d'Ebola, concerne la totalité de la planète. Donc la santé n'est pas un bien privé. Si vous le privatisez, vous tuez tout le monde. Donc la santé est un bien commun mondial face auquel il faut des institutions internationales qui permettent d'organiser une réponse mondiale sanitaire à ce type de pandémie.
Ce que vous disiez concernant l'état de santé d'une famille à Wuhan ou en Guinée, qui fait que c'est un sujet finalement mondial, qui concerne tout le monde, cette notion de solidarité mondiale, on peut faire un parallèle avec le dérèglement climatique, c'est un peu la même chose. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire des liens entre les deux ?
Ah oui, en fait, c'est exactement le même problème dans les deux cas. La racine du problème, à la fois de la crise écologique et de cette pandémie du coronavirus, c'est la même. À savoir que l'humanité est devenue l'espèce dominante sur la planète, ce qui veut dire à la fois qu'elle est capable de briser toutes les chaînes de reproduction de tout le vivant, ce que nous sommes en train de faire, hein, depuis les poissons dans nos océans qui sont en train de disparaître, jusqu'aux oiseaux qui sont aussi en train de disparaître. Hein. Vous savez qu'il y a plus de 3 milliards d'oiseaux qui ont disparu dans le ciel des États-Unis depuis 30 ans, en passant par les insectes, tout le vivant, la totalité du vivant est en train d'être détruite aujourd'hui par l'être humain. Et c'est aussi ça qui fait que nous avons ces pandémies, c'est-à-dire que l'espèce dominante, c'est le véhicule préféré des virus, puisque c'est beaucoup plus efficace en termes d'évolution biologique pour un virus utiliser l'humain comme véhicule de transport plutôt que, disons, le renne arctique qui est en train de disparaître à cause du réchauffement. Donc la racine est la même, c'est-à-dire le fait que nous soyons devenus l'espèce vivante dominante au sommet de la pyramide de toutes les espèces vivantes aujourd'hui sur cette planète. Ce dont nous devons faire l'apprentissage aujourd'hui, c'est d'être l'espèce dominante sans tout détruire, y compris nous-mêmes. Après, la réponse en plus est la même, à mon avis. C'est-à-dire que face à la crise écologique, il faut que nous comprenions à toute vitesse qu'il y a un certain nombre de ressources qui ne peuvent pas être privatisées, parce que les privatiser, ça revient à les détruire. Je pense notamment de nouveau à la faune halieutique dans nos océans, les poissons qui sont en train de disparaître. Si on continue la pêche industrielle en eau profonde telle que nous la pratiquons aujourd'hui, il n'y a plus de poissons comestibles dans les océans à partir de 2040. Les océanologues nous ont prévenus déjà depuis des années. Ceci est bien connu, malheureusement. Et donc, ces poissons doivent devenir un bien commun mondial de l'humanité. Et de la même manière, la santé ne peut pas être un bien privé. C'est-à-dire qu'on découvre à travers cette histoire de virus que nous sommes tous des êtres interdépendants. C'est-à-dire que ce qui vous arrive me concerne, ce qui m'arrive vous concerne et concerne la totalité de l'humanité. Donc si je privatise, je maintiens la fiction d'une anthropologie de l'individu isolé, de l'atome, de la monade, qui ne doit rien à personne et qui peut s'exclure du reste du monde en jouissant d'une relation privative avec ce dont il ou elle est le propriétaire. Alors on est en train de découvrir que cette fiction-là, qui a été inventée par des juristes romains il y a 2000 ans, probablement en transposant dans la relation homme-chose la relation maître-esclave, cette fiction-là n'est pas tenable pour toute une série de ressources, dont la santé, la culture, l'éducation et évidemment les ressources écologiques.
Alors Emmanuel Macron et d'autres ont dit solennellement dans plusieurs discours que le monde d'après cette crise sera forcément différent de celui d'avant. Vous y croyez ?
Ça dépend de ce à quoi je dois croire. Est-ce qu'il faut croire à la parole présidentielle ? Vous savez, c'est en amour, les actes comptent au moins autant, sinon davantage que les paroles. Bon. Ceci étant dit, effectivement, là je rejoins complètement le président de la République et je pense tout le monde aujourd'hui, il sera impossible de reconstruire le monde d'après comme le monde d'avant. Il faut aujourd'hui une relocalisation massive de toutes les activités humaines sur nos territoires, procéder à une réindustrialisation verte de l'économie française avec des circuits courts. C'est ça qui doit être à mon avis notre horizon pour les années, les décennies qui viennent.
Et pour les pays du Sud ?
Et pour les pays du Sud, c'est la même chose. Vous savez que la question à plusieurs milliers de milliards qui était posée par beaucoup d'économistes jusqu'à récemment, c'était la prochaine usine du monde sera-t-elle l'Afrique ? Je crois que cette pandémie-là va nous révéler que, avant de rêver d'une nouvelle exploitation des ressources africaines, il faut surtout reconsidérer complètement la globalisation marchande. Un protectionnisme écologique, social, sanitaire, intelligent, ça ne veut pas dire du tout la guerre pour tous. Et qu'en revanche, il faut procéder partout à une réindustrialisation verte, y compris en Afrique, bien sûr.
Merci Gaël Giraud.
Merci à vous.
Laurent Hayet, comment réagissez-vous à ces propos de Gaël Giraud ? Impossible de reconstruire le monde d'après comme le monde d'avant ?
Complètement. Ce qui est remis en cause dans les propos de Gaël Giraud, c'est le TINA, c'est « There is no alternative », il n'y a pas de société, il n'y a que des individus mis en compétition les uns contre les autres, dans une société qui doit se préoccuper que de soi-même. On voit les limites de ce système qui est extrêmement efficient. pour produire ce pour quoi il est construit, c'est-à-dire de la productivité économique, et en oubliant tous les autres enjeux qui font la société humaine, ne serait-ce que sa propre protection.
Laurent Testot, comment est-ce que vous réagissez ?
Alors, je partage toutes les idées de Gaël Giraud et tout ce qui a été dit. J'exprime néanmoins une inquiétude. Les États, pour lutter contre la progression du virus, mettent en place des dispositifs d'exception. J'ose espérer qu'ils les lèveront parce que dans un avenir proche, on peut craindre que si ceci soit maintenu, ils serviront également au retour à ce qui pourrait ressembler à l'ordre ancien, une forme de capitalisme qui rebondit sur le désastre et repart sur les trajectoires antérieures au motif qu'effectivement, il n'y a pas d'alternative.
Vous pensez à quel type de disposition, par exemple ?
Les dispositions de suivi numérique des populations qui devront vraiment être transitoires, les dispositifs d'état d'urgence, tout simplement, qui pourraient être prolongés s'il y a plusieurs vagues, comme c'est probable, de virus ultérieurs. Peut-être, il est encore trop tôt pour le dire, mais y aura-t-il, avant qu'on ait une immunisation des populations, des états d'urgence locaux prolongés sous prétexte de crise. Je pense à des crises antérieures, comme ce qui s'est passé aux États-Unis ou en France suite à des actes de terrorisme, où des législations exceptionnelles ont abrogé des libertés publiques et celles-ci n'ont pas été restaurées par la suite.
Oui, donc attention, vigilance, dites-vous. Alors, depuis l'annonce de son décès, les hommages pleuvent. Le saxophoniste camerounais Manu Dibango, papa Manu, le doyen, n'a pas survécu à l'âge de 86 ans au coronavirus. Alors, place à l'artiste Dicalo. Manu Dibango dans C'est pas du vent sur RFI. Nous parlons de la manière dont la crise du coronavirus révèle les failles de notre économie mondialisée avec Laurent Hayet et Laurent Testot, coordonnateurs du livre Collapsus publié chez Albin Michel. Un livre qui dresse un état des lieux des dangers qui menacent l'humanité et son avenir. Le dérèglement climatique et la disparition massive de la biodiversité en font évidemment partie. Mais la crise du coronavirus a-t-elle un lien avec la dégradation de notre environnement ? Nous avons eu envie de poser la question à l'un des contributeurs de votre livre qui est en ligne avec nous. Bonjour Dominique Bourg.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes philosophe, professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Dans Collapsus, vous faites un état des lieux, système Terre, ce que l'on sait, ce que l'on craint. Vous alertez depuis longtemps sur les conséquences pour l'humanité de la dégradation de notre environnement. Et la crise que nous traversons est nouvelle par son ampleur, mais pas par sa cause. C'est ce que l'on appelle une zoonose.
Oui, tout à fait. Il y a un premier lien entre ce qui nous arrive et l'environnement. C'est qu'effectivement, on a affaire à une zoonose, c'est-à-dire un virus qui nous vient du monde animal. Là, on sait le marché dans lequel ça s'est passé, en Chine, etc. Mais de façon générale, les zoonoses ont tendance à se multiplier. Il semblerait bien qu'on doive avoir affaire à d'autres zoonoses dans l'avenir, tout simplement parce que on a détruit, déstabilisé un très grand nombre d'écosystèmes, on a détruit soit les espèces hôtes, soit les domaines de vie de différentes espèces, etc. Et on a créé un désordre gigantesque dont on subit là très probablement une des conséquences. Donc de manière plus générale, il y a bien un lien entre la crise d'origine sanitaire que l'on connaît et les difficultés écologiques générales auxquelles nous sommes familiarisés depuis des décennies maintenant.
Oui, parce que cette histoire de transmission de virus des espèces animales aux humains ou des humains aux animaux, ça existe depuis que l'humain fait de l'agriculture finalement.
Alors oui, c'est une très vieille affaire. La peste, par exemple, passait par une puce qui affectait le rat et ensuite qui nous affectait. Mais de manière générale, oui, en fait, on est en train de vivre sans doute une période qui, par certains côtés, est analogue à ce qu'on a connu avec l'avènement de l'agriculture et de l'élevage. Où là, d'un seul coup, pour reprendre l'expression de James Scott, on a constitué ce qu'il appelle la domus, c'est-à-dire un lieu où on concentre à la fois des populations humaines et des populations animales. Et ça a fait advenir un certain nombre de pathologies qui étaient totalement ignorées des êtres humains avant. D'une certaine manière, on crée aujourd'hui des perturbations qui sont infiniment plus fortes que celles du néolithique, avec alors là aussi une concentration homme-animal, notamment en Asie, qui est gigantesque. Et donc, du coup, les mêmes causes, les mêmes effets. Et on voit arriver en plus des problèmes dont on va reparler, climat, autres, etc., mais effectivement, des crises sanitaires très probablement imputables à la déstabilisation et à la destruction des écosystèmes.
Quel autre lien peut-on faire entre la dégradation de notre environnement et cette crise sanitaire que nous traversons ?
Il y en a beaucoup, parce qu'en fait, effectivement, il y a une certaine forme d'analogie, alors on va filer celle-là dans un premier temps, d'analogie avec la question du climat. Alors attention, ce n'est qu'une analogie, mais prenons déjà ce cas-là. Effectivement, là, à peu près pour une grande partie de l'humanité, de façon extrêmement brutale, on arrête les systèmes économiques. On le fait, mais on le fait avec la perspective d'y mettre fin. Alors, il y a une comparaison avec le climat, mais le climat, c'est quand même différent. Si on veut pas exploser les 2 degrés que nous aurons atteints très probablement en 2040, il faudrait, dans la décennie, réduire très très rapidement nos consommations d'énergie. Mais là, le problème, c'est plus pareil. Ça, c'est pas les réduire pour les reprendre, c'est les réduire de façon définitive et pour déboucher sur un régime de croisière de nos sociétés très différent de ce qu'on a connu jusqu'alors. Alors, donc, on voit bien, dans les deux cas, il y a une décélération rapide, mais dans un autre, c'est une décélération structurelle et pas du tout conjoncturelle. Alors ça, c'est un premier point de comparaison. Deuxième point de comparaison, eh bien, c'est ce qui concerne les relations entre, si vous voulez, entre science et politique. Hein. C'est très différent de ce qui se passe avec le climat. Avec le climat, ou même de manière plus générale avec la biodiversité, les communautés scientifiques impliquées en restent grosso modo sur le plan du diagnostic. Après, savoir ce qu'il faut en faire, ce sont des choix politiques et des choix sociaux. En revanche, là, puisqu'on est dans un domaine médical, si vous voulez, sanitaire, le diagnostic est très difficilement séparable de l'ordonnance. C'est toute la position fragile, par exemple, du conseil scientifique en France, qui est derrière les autorités publiques, c'est que faire le diagnostic, c'est forcément en même temps dire ce qu'on devrait faire. Donc là, si vous voulez, on débouche de l'un à l'autre. Et du coup, effectivement, les différences qu'il peut y avoir dans ces communautés, elles arrivent sur la place publique et, en simultané, en quelque sorte. Hein. Et donc, ça crée une relation entre le pouvoir politique et les sciences qui n'est pas du tout ce qui se passe dans le climat. J'insiste énormément là-dessus.
Alors, quand on entend le ministre français de l'économie parler de la nécessité de relocaliser et le ministre de l'agriculture qui fait un appel pour que les Français rejoignent la grande armée de l'agriculture, car la main-d'œuvre étrangère qu'elle emploie habituellement à cette période, on parle quand même de 200 000 personnes, ne viendra pas. On se dit que quand même les lignes bougent.
Oui, alors on pourrait même rajouter un des représentants du MEDEF qui en appelle à certaines nationalisations, je crois que tout ça est quand même relativement décoiffant.
Donc le MEDEF qui est le syndicat du patronat français.
Français, oui, tout à fait. Et donc oui, là on constate quelque chose d'assez décoiffant, c'est-à-dire ces gens qui nous ont globalisé le monde, qui nous ont dit que c'était la meilleure chose qui pouvait nous arriver, qui nous ont dit qu'il fallait qu'il y ait une logique de flux tendu en toute chose, qu'il y avait trop de lits dans les hôpitaux, que le principe de précaution c'était de la bêtise, comment ça, mais on a accumulé des masques, il faut les détruire, on ne va surtout pas les remplacer, etc. Tous ces gens-là, maintenant, ils nous disent à peu près l'inverse de ce qu'ils nous ont dit, et ils pourraient très bien, dans un mois ou deux, nous dire exactement l'inverse de ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Alors, en revanche, arrêtons-nous 30 secondes sur la question de l'agriculture. Là, il y a un véritable problème. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, les récoltes, elles n'attendent pas. Il y a certaines populations qu'on fait venir avec, quand on ferme les frontières, on ne peut plus les faire venir. Et s'il n'y a personne d'autre, les récoltes seront perdu. Et au bout d'un moment donné, on va finir par avoir des problèmes à se nourrir dans les supermarchés. Alors, cela dit, par rapport à la société de demain, c'est un indicateur très intéressant, parce que là, on reste juste simplement sur la question de la récolte. Mais attention, la société de demain devrait être une société où on va disposer de beaucoup moins d'énergie. En tout cas, c'est le scénario le plus probable. Or, aujourd'hui, quand on produit une calorie alimentaire, vous avez au moins 10, si ce n'est parfois 30, calories fossiles qui sont derrière. Ben, ce ne sera plus le cas. Et donc, on peut imaginer qu'à l'avenir, c'est entre 20 et 30% de la main-d'œuvre qui va devoir être allouée, et de façon permanente ou quasi permanente, à la production alimentaire. C'est un schéma de société qui est complètement différent. Alors ça, ça nous met bien en face, si vous voulez, de la réorganisation très puissante dans laquelle on va devoir entrer. N'oublions pas que le Covid-19 aura un temps, mais qu'en revanche, tous les autres problèmes écologiques, eux, ils vont devenir de plus en plus sévères. On est dans le deuxième degré de montée des températures moyennes par rapport au 19e siècle. On est à 1,1. Je vous le rappelle, on sera sans doute à 2 en 2040. Donc voilà, on va devoir procéder à des changements structuraux extrêmement profonds. Alors si cette crise aujourd'hui joue comme une espèce de petite répétition et fait comprendre la conscience des changements auxquels on va devoir procéder, mais dans la longue durée, ça serait une excellente chose. Mais j'ai vraiment quelques doute quant à des conversions extrêmement rapides d'un certain nombre d'acteurs.
Merci Dominique Bourg.
Merci.
Laurent Testot, comment est-ce que vous réagissez à ces propos de Dominique Bourg ? Est-ce que la crise du coronavirus peut être une petite répétition, comme il le dit si bien ?
Oui, tout à fait. Il est convaincant sur ce point-là. Il rejoint mon analyse. C'est que nous avons affaire effectivement à une petite répétition de la grande crise qui va se pointer tout au long du XXIe siècle, combinant dégradation des écosystèmes, aggravation du dérèglement climatique et moindre disponibilité, érosion de notre capacité à capter des ressources minières, énergétiques, qui jusqu'ici ont conditionné notre capacité à avoir une emprise sur le monde. Donc, effectivement, il va falloir apprendre à gérer la descente à la fois en ressources, qu'elles soient biologiques ou minières ou énergétiques, et la sécurité des populations par rapport à des catastrophes qui ne seront pas seulement sanitaires, mais qui combineront différents aspects et qui seront aggravées globalement par la crise climatique. D'ailleurs, on ne devrait pas employer le terme de crise climatique, mais bien d'aggravation de la destruction des milieux par le climat.
Laurent Hayet, vous, comment est-ce que vous faites le lien ? Comment vous réagissez aux propos de Dominique Bourg ?
Quand on a envoyé nos questions aux auteurs et qu'on a reçu en retour leurs articles, quelle était leur position par rapport à cette hypothèse, hein, qui est le titre d'un effondrement global du système et de tout ce qu'il soutient actuellement, certains étant convaincus, d'autres beaucoup moins. On s'aperçoit quand même que l'image globale était quand même assez cohérente et que ça formait une sorte de mosaïque assez claire, que quel que soit par quel bout on prenait le problème, l'aspect du système, on avait bien cette convergence de descente et de problématique. Et comme je dirais, par mon métier, je ne peux pas tourner les yeux face à un risque, sinon on ne peut pas gérer un danger si on fait semblant de l'ignorer. Eh bien, il fallait vraiment se poser la question et être capable de se remettre en cause. Donc le livre est aussi une alerte. Ce qui était intéressant dans ces articles, c'est que, comme Dominique Bourg, et des fois de façon très pratique, hein, on a des articles qui donnent des pistes de modification et de direction où creuser pour essayer de sauver des meubles et de préserver des choses. Et ça, c'est là où moi j'ai été agréablement surpris, on va dire, si on peut parler de surprise agréable dans la scène que donnait l'ensemble de ces articles. Mais il y avait des graines d'espoir, je dirais.
Alors on y reviendra sur ces graines d'espoir, parce que quand même le tableau est assez noir, mais on en parlera tout à l'heure. Après, ce qu'on essaye de faire à travers cette émission, hein, c'est de savoir si cette crise nous aide à comprendre comment fonctionne le monde dans lequel nous vivons, ce qui est aussi l'objectif de votre livre. Et c'est essentiel parce que notre vision qui a évolué d'ailleurs au gré des siècles est pour de multiples raisons faussées, sans que nous nous en rendions compte. D'ailleurs, nous sommes en ligne avec un autre contributeur de votre livre, Collapsus. Bonjour Philippe Biwix.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur spécialiste de l'épuisement des ressources minérales, auteur de « Le bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire » publié au Seuil. Votre chapitre dans Collapsus s'appelle « Jusqu'où le monde peut-il s'éroder ?». Vous mettez en avant la notion d'un phénomène qui fausse notre vision de la réalité. Il s'agit du décalage des points de référence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette notion ?
Oui, alors c'est en fait un biologiste, Daniel Pauli, qui est spécialiste mondial des ressources halieutiques, des stocks de poissons, qui avait mis en exergue dans un article scientifique ce syndrome de décalage des points de référence. L'idée, c'est que chaque scientifique qui est en charge de déterminer les quotas de pêche prend une référence en début de carrière de l'état des stocks de poissons, de la composition en espèces, et se sert de cette référence pour établir la bonne santé ou la mauvaise santé de tel ou tel écosystème et de tel ou tel stock de poissons. Et en réalité, ce stock se dégrade et les références se dégradent au fur et à mesure que des nouveaux scientifiques rentrent dans la carrière et que d'autres en sortent. Et en généralisant, c'est la question d'amnésie environnementale, c'est-à-dire notre incapacité à transmettre le fait que effectivement il y a effondrement en qualité comme en quantité des insectes, des batraciens, d'un certain nombre d'animaux autour de nous. Et ce qui est intéressant, c'est que ce concept de décalage de la référence fonctionne dans tous les domaines, dans tous les domaines de la vie, de la perception, de la morale, des valeurs. Et par exemple, on a notre niveau de vie qui progresse a décalé notre perception du confort en termes d'équipement, de taille, de performance des logements, des voitures, de la température de confort, nos exigences en termes de services de médecine, de services bancaires, de débit d'Internet, d'avoir le Wi-Fi ou pas dans les transports, des toilettes propres, que sais-je. Et donc, on décale nos références, je dirais, positivement dans un sens, mais on a aussi la capacité à décaler négativement, c'est-à-dire à supporter des choses que nos ancêtres n'auraient pas forcément supportées. Pensons à l'urbanisation galopante, à l'enlaidissement des entrées de ville, des embouteillages, la saturation dans les transports, que les conditions de travail se flexibilisent. Et donc, on voit que l'être humain est en réalité extrêmement adaptable et qu'on accepte aujourd'hui, qu'il y a des choses qui sont devenues insupportables. Pensons au racisme, aux inégalités hommes-femmes, peut-être à la souffrance animale demain, et puis à l'inverse, on accepte des choses qui auraient été considérées comme insupportables il y a 30 ans ou 40 ans sur les inégalités de revenus ou de patrimoine ou l'utilisation des données personnelles.
Alors vous écrivez « Il va falloir apprendre à serrer les dents
». Oui, alors on sait que le monde en croissance perpétuelle n'est pas soutenable sur le long terme. Je cite dans ce même article un simple chiffre qui est de dire, imaginons qu'on ferait 2% de croissance par an, au bout d'un millénaire, ça donne une multiplication par 390 millions. Qui peut croire qu'on va réussir à multiplier notre production par 390 millions ou à faire de la dématérialisation avec des moteurs 390 millions de fois plus efficaces? C'est évidemment totalement absurde de tirer cette exponentielle. Et donc ça veut bien dire qu'à un moment ou un autre, on devra apprendre à inventer un nouveau système économique qui ne soit pas uniquement basé sur la croissance et qui n'a pas besoin d'être en accélération permanente pour ne pas s'écrouler financièrement. Et donc ce monde-là est à inventer. Est-ce que ça va nous aider à construire ça? C'est une bonne question. On aura sans doute des réflexions sur des tendances historiques qui allaient de soi. Moi, je pense par exemple à la question de la concentration urbaine, à la question de la densification, de la métropolisation, qui paraissait intéressante d'un point de vue de la consommation d'espace réduite par rapport au périurbain, le fait de pouvoir mettre en place des transports en commun plus efficaces, etc. Mais finalement, face à des crises de type sanitaire ou peut-être derrière à des questions d'approvisionnement et autres, on voit bien que la ville hyper concentrée peut être extrêmement fragile. Donc ça pourrait nous amener à avoir une réflexion sur, au contraire, une nouvelle vague peut-être de décentralisation, aidée d'ailleurs par des pratiques de télétravail qui pourraient arriver pour partie de la crise en cours, et comment redynamiser les villes moyennes et réduire la tendance à l'hypermobilité.
Merci beaucoup Philippe Biwix.
Merci.
Laurent Testo, ce n'est pas évident quand on écoute Philippe Biwix de se situer, de savoir comment réagir dans ce monde en pleine évolution si on n'en a pas une vision réelle finalement.
Oui, et on en aura une vision réelle à condition de solliciter un maximum de disciplines et de les associer à l'étude des futurs possibles. C'est-à-dire qu'à l'issue des articles de chacun des contributeurs, s'esquisse souvent des solutions, mais leur mise en système reste à faire. Et je pense qu'il faudra à terme réunir des équipes de spécialistes qui disent économiquement il faudrait arriver à ça, socialement il faudrait arriver à ça, biologiquement il faudrait arriver à ça, mais comment coordonne-t-on nos efforts pour qu'ils ne s'annulent pas mutuellement ? Mettre une taxe sur le carbone émis est une bonne idée, a priori c'est une idée d'économie, mais comment la faire accepter et comment traduire cela en protection effective de l'environnement ? Et c'est peut-être à ça que la crise du virus peut nous aider, c'est à sortir des boucles de rétroaction de pensée où nous sommes depuis trop longtemps, sortir de l'idéologie néolibérale et essayer de trouver de nouveaux moyens d'organiser nos savoirs pour créer un monde dont nous voulons vraiment l'existence.
Laurent Hayet, vous êtes d'accord ?
Ah, complètement. C'est là où le livre peut être un modeste outil, puisque ça commence déjà par une approche du lecteur. Enfin, si on est capable dans sa tête d'envisager sortir de ces paradigmes, ce que peut faire l'un, beaucoup peuvent le faire. Et quand on est déjà plusieurs à vouloir changer quelque chose, à imaginer pouvoir changer quelque chose, alors on a la capacité éventuellement de changer quelque chose.
Voilà, au moins on entend à travers vos propos que c'est possible. Ça fait du bien, ça donne un peu d'espoir. Restez avec nous sur RFI. Allez, on se détend, on respire et on reprend de l'énergie avec l'artiste britannique Céleste. Stop this flame.
But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.
You'll never stop. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.
You'll never stop. Stop this flame, Céleste dans C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes en compagnie de deux Laurent aujourd'hui, Laurent Testeau et Laurent Hayet, qui ont coordonné le livre Collapsus, publié chez Albin Michel, dans lequel une quarantaine d'experts donnent leur vision de l'état du monde et des risques d'effondrement de notre civilisation. Un livre qui prend une connotation particulière avec cette crise du coronavirus que nous traversons. Alors comment l'humanité peut-elle s'en sortir ? Eh bien, pour répondre à cette question, nous sommes en ligne avec l'un des contributeurs de votre livre. Bonjour Vincent Mignereau.
Bonjour.
Vous êtes essayiste et chercheur indépendant en sciences humaines. Vos travaux se focalisent sur le risque d'effondrement de notre civilisation industrielle. Vous avez d'ailleurs fondé le comité Adasteia qui accompagne ceux qui s'intéressent à cette perspective. Alors, votre chapitre dans le livre s'appelle « Faire calmement face à notre finitude ». Alors, comment est-ce que vous réagissez à la crise actuelle que traverse l'humanité ?
Notre emprise sur le monde peut être considérée comme une des causes de la survenue de ce virus. Alors cette emprise, elle est de deux types. Elle est d'une part d'excès de déploiement de techniques, c'est-à-dire que nous abîmons tellement les écosystèmes que nous provoquons des disséminations de pathogènes. Donc ça, c'est l'excès de techniques. Et puis, il y a probablement aujourd'hui, pour ce virus en particulier, un problème, on va dire, culturel, ou une situation culturelle particulière, qui est celle d'une certaine naïveté dans le rapport à la nature et au vivant, qui fait que nous recherchons parfois une proximité avec le vivant et avec la nature, que nous sacralisons et que nous considérons comme intrinsèquement bonnes ou bienveillantes, voire dotées de pouvoirs magiques, au point de nous en nourrir, c'est-à-dire manger des animaux sauvages, ou parfois de nous traiter avec des médecines parallèles ou alternatives qui sont censées être plus vertueuses parce qu'elles sont dans une grande proximité avec la nature. Et en fait, dans les deux cas, nous nous exposons à des risques supplémentaires.
Alors, s'il y a un aspect positif dans cette crise, c'est que la Chine a interdit justement la consommation d'animaux sauvages. Donc ça, on peut dire que c'est une avancée, mais plus globalement, à votre avis, que pouvons-nous apprendre de cette crise, même si c'est peut-être un petit peu tôt pour tirer des conclusions, mais on peut peut-être se dire que cette crise, qu'on pourrait peut-être comparer à la lutte contre le dérèglement climatique, c'est que c'est pour la première fois une crise que l'on doit affronter de façon solidaire, parce que le virus, s'il n'est pas vaincu par tous, va continuer à tourner à travers la planète. Donc on a besoin de solidarité, on a besoin de mieux comprendre comment fonctionne notre mondialisation, on a besoin de plus d'humilité peut-être aussi globalement face à notre environnement. Tout cela, on le comprend quand même un peu à travers cette crise, non ?
Absolument, et les premières réactions ont été de dire « mais ça y est, on trouve l'argent ». On trouve l'argent alors qu'on n'arrête pas de nous dire que pour le climat, on ne trouve pas l'argent pour réduire les risques, pour empêcher que nous polluions, etc. Et en fait, la différence, elle est fondamentale entre les deux problèmes. D'une part, pour le climat, en fait, ce contre quoi nous devons lutter pour protéger le climat, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que pour les financiers, ils doivent sortir de l'argent du système de spéculation, du système économique, du système capitaliste. Ils doivent produire de l'argent pour finalement empêcher le système économique de fonctionner. Et ça, c'est contradictoire pour les financiers, les spéculateurs, les industriels, les États, etc. C'est contradictoire. On ne peut pas trouver de l'argent pour empêcher la société de fonctionner. C'est la seule chose à faire pour protéger le climat. Alors que, dans le cas du coronavirus, nous pouvons trouver de l'argent, et l'argent se trouve, parce que l'objectif n'est pas de freiner les sociétés, il est de maintenir leur fonctionnement.
Et du coup, pour vous, cette crise n'influencera pas notre trajectoire globale, qui, d'après vos travaux, est assez sombre.
Alors, on peut espérer, comme vous le disiez, et je partage votre espérance, que globalement, nos sociétés deviennent plus raisonnables et qu'elles s'inscrivent dans une trajectoire beaucoup moins destructrice du milieu, beaucoup plus tempérée dans les émissions de CO2, etc. Je le souhaite vraiment très sincèrement. Je suis juste prudent parce que ce type de croyance ou d'espérance a été sanctionné strictement par l'inverse de ces espérances-là au cours de l'histoire, et en particulier depuis la grande accélération de ces dernières décennies. Donc étant donné que ces espérances-là, jusqu'à aujourd'hui, ont toujours été sanctionnées par exactement l'inverse, je ne peux pas présupposer qu'un événement de ce type va faire fondamentalement changer nos sociétés. Je peux l'espérer, mais je ne peux pas en être sûr. De surcroît, lorsque le coronavirus sera passé, lorsque nous aurons surmonté cette épreuve-là, il y aura toujours X milliards d'humains à faire vivre sur cette planète, dont une grande partie qui ne désirera qu'une chose, et c'est parfaitement légitime, c'est acquérir une plus grande sécurité sur son alimentation, sur sa santé et sa sécurité générale, sur le plan de l'hostilité entre les populations.
En fait, ce que vous dites souvent, c'est que l'humanité ne peut plus revenir en arrière parce que nous sommes trop nombreux.
L'aspect quantitatif joue, mais moins que l'aspect qualitatif, c'est-à-dire que nous sommes très nombreux, surtout avec de très grandes exigences. Donc, il faudrait tout réduire, en fait. Nous nous confrontons aujourd'hui à une crise existentielle profonde. C'est ça ma grille de lecture, c'est que nous n'avons pas un problème écologique, nous avons un problème existentiel qui génère un problème écologique. Et ce problème existentiel, il est à la fois quantitatif et qualitatif. Si nous voulons réduire notre impact sur le milieu, nous devons vivre dans de moins bonnes conditions et moins nombreux.
Et est-ce que cette crise qui incite au confinement ne peut pas nous permettre de nous recentrer sur l'essentiel et donc de baisser un peu notre niveau d'exigence ? Bon, c'est peut-être naïf, hein.
Voilà, c'est ce que j'allais vous répondre. C'est que nous pouvons nous recentrer sur l'essentiel. Si ça reste de l'ordre du récit et de la mythologie et que nous ne changeons pas notre niveau de vie, ça n'aura absolument aucune différence sur l'impact sur le milieu. La seule façon que les humains ont de réduire leur impact sur le milieu, ça n'est pas de changer leur modèle de consommation, c'est de réduire leurs revenus.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour générer de la richesse, il faut avoir transformé de la matière première dans le milieu. C'est comme ça que la richesse est produite par nos sociétés. Nos sociétés sont des systèmes qui prennent des ressources dans un milieu, qui les transforment, ce qui apporte des services rendus à la société, services rendus qui sont échangés contre de la valeur, c'est ça la richesse. Et ensuite, une fois que ces services rendus, les dégâts sont déjà faits. Ces services rendus, ces transformations permettent de générer de la richesse, donc des revenus, mais on ne peut pas revenir en arrière sur l'exploitation de l'énergie qui ne se fait qu'à sens unique, sur la transformation de la matière première qui, une fois qu'on a sorti le cuivre du sol et qu'on l'a dispersé dans nos smartphones ou dans nos usages quotidiens, une fois qu'il est dispersé, on ne peut pas le récupérer dans l'environnement. Pareil pour en fait toutes les ressources que nous utilisons, par exemple le phosphate que nous mettons dans nos champs, une fois qu'il est lessivé par les pluies et qu'il se retrouve dans l'océan, on ne peut pas le récupérer. Donc nos systèmes de création de richesse fonctionnent à sens unique, ce qui fait qu'une fois que vous avez généré la richesse et qu'elle est sur votre compte en banque, c'est déjà trop tard en fait.
Oui, alors s'il faut demander aux gens de baisser leurs revenus, ça c'est clair que ça va être compliqué. Hein.
Vous touchez là exactement le point qui a été critique ces dernières années ou ces derniers mois en France en particulier, et puis un peu dans le monde, hein, dans la plupart des pays qui ont eu des crises sociales, c'est qu'il est absolument incompatible de gérer à la fois la fin du mois et la fin du monde. C'est notre adaptation parfaitement ambivalente dont je vous parlais tout à l'heure. Nous ne pouvons pas à la fois obtenir des avantages et protéger notre milieu. C'est totalement contradictoire et c'est notre problème existentiel le plus crucial.
Merci Vincent Mignereau.
Je vous en prie, merci à vous.
Laurent Hayet, vous faites partie avec Vincent Mignereau de l'association Adrastia, que vous avez d'ailleurs cofondée. C'est une association qui réunit justement des citoyens qui se tiennent informés de l'évolution de la crise systémique mondiale. Alors aux auditeurs qui nous écoutent rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, quels conseils vous pourriez donner pour mieux s'informer, pour pas déprimer, pour essayer de mieux penser le monde, mais avec un peu d'optimisme?
Eh bien, quand on a fondé Adrastia en 2014, le but était juste d'informer, justement, pour lutter contre le déni généralisé de l'époque. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Il suffit de lire les journaux pour, si on le souhaite, faire le constat de l'état du monde. Donc, on essaye d'évoluer. On est passé d'une dizaine de membres à plusieurs centaines maintenant, d'accompagner. Et on voit avec le propos de Vincent, mais dans l'ouvrage, il y a d'autres propositions de posture et d'adaptation qui sont proposées, qui ne sont que des exemples. On peut en trouver bien d'autres. Dans l'association, on essaye, et on est une assemblée de bénévoles, hein, donc... On essaye déjà d'accompagner cette décolonisation des esprits, cette évolution des mentalités et de placer les gens en position d'être autonomes d'eux-mêmes et de prendre leur place dans un système, d'un monde qui est en train de changer, qu'on le veuille ou non. Donc ceux qui ne voudront pas voir résisteront, seront déstabilisés quand l'évidence s'imposera. Les autres seront un peu plus prêts et ceux qui auront accepté le changement aussi... désagréables soient-ils, eh bien, seront mieux équipés, on peut dire, pour s'adapter à ce nouveau monde qui s'ouvre à nous. Donc, je ne peux pas vous dire, on est à l'heure des bifurcations. Hein, donc, on peut peser sur les leviers de la machine pour essayer de l'orienter en tant qu'individu, en tant qu'électeur, en tant que consommateur, en tant que salarié, enfin, tous les rôles qu'on a dans notre vie.
Laurent Testo, le mot de la fin ?
C'est qu'il faut profiter justement de ce moment où la vérité se dévoile quelque part, c'est-à-dire que nous sommes face à un monde où tout ne peut pas se résoudre par l'argent, pour essayer de trouver des alternatives crédibles afin d'orienter le futur vers quelque chose que l'on puisse accepter de vivre.
Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu de la radio virtuelle qui nous est imposée en ce moment. Je rappelle le titre de votre ouvrage collectif, Collapsus, c'est publié chez Albin Michel. Merci à Sophie Janin pour la réalisation de cette émission et à vous, évidemment, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous le dis toutes les semaines, mais cette fois-ci, la connotation est différente. Prenez soin de vous et des vôtres et à demain, même planète, même heure.